Tout d'abord, un grand merci. C'est vrai que c'est un privilège pour moi d'être de nouveau ici, parce que je suis venu il y a fort longtemps, et quelquefois il m'est arrivé d'être parmi vous. J'étais encore étudiant en théologie, vous m'aviez invité à venir prêcher une fois. Et puis voilà, donc les années passent. Hein. Mais ça faisait plaisir de voir tous ces enfants qui étaient là. La vie continue, et la vie se renouvelle. J'ai la joie aussi d'avoir un de mes fils qui est pasteur maintenant, pas très loin d'ici, puisqu'il est pasteur dans l'église réformée à Saint-Jacques, Saint-François. Donc voilà, la vie continue, mais c'est un privilège. Merci pour votre accueil, merci pour cette communauté. Pour moi, c'est très important de pouvoir partager ce thème dans un lieu de prière, parce que c'est un thème compliqué. Alors c'est bien de prier pour moi, c'est bien de prier pour vous, parce que je crois qu'il faut un discernement communautaire. Il n'y a pas une seule personne qui comprend ce qui se passe sur la question de l'islam. C'est compliqué et on a besoin d'avis divergents, différents. Donc voilà, ce n'est pas d'abord une conférence, ça reste un message que je vous apporte ce matin. Mais comme ça a été dit, il y aura une autre conférence qui aura lieu ici pour aller plus loin, donc pour discuter. Voilà, donc merci beaucoup pour votre invitation. Merci pour votre communauté priante dans laquelle je peux être ici avec vous. Donc c'est vrai, le point de départ, c'est ce livre que j'ai rédigé après des années de travail. Ça a été relu par beaucoup de personnes, dont Amar qui est là, et j'aimerais remercier Amar. Vous avez le petit sigle en haut, l'ICRI, Institut pour les questions relatives à l'islam. Vous avez Eric Cazès hein, de votre communauté, et nous sommes ensemble dans ce groupe de travail. Et je ne pense pas que j'aurais pu écrire ce livre sans le soutien d'Amar et d'autres, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui nous ont été apportées aussi par cela. Donc tout à l'heure, nous allons aussi prier, parce que je crois que c'est dans la prière que nous vivons cet engagement, et on priera aussi avec Amar et Eric qui n'est pas là. Alors c'est peut-être un thème qui va vous surprendre. Fondement et stratégie chrétienne, fondement et stratégie musulmane. Je pense que vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues aussi clairement et peut-être pas dans un message comme ça. J'aime bien rappeler ce que John Stott disait. Il faut avoir en même temps the word and the world. La parole et le monde. Et en tant que chrétiens, nous sommes parfois très très bons pour parler de la parole. Et nous sommes dans la parole et dans la parole et dans la parole. Mais il faut bien connaître le monde dans lequel on est. Et ça demande beaucoup de travail. C'est fatigant parfois, mais il faut comprendre la complexité du monde dans lequel on est et il faut pouvoir faire le lien entre les deux. Il y a des gens qui connaissent très bien le monde, mais qui n'ont pas l'éclairage de la parole. Il y a des gens qui connaissent très bien la parole, mais qui n'arrivent pas à faire le lien avec le monde. Et nous, notre responsabilité de chrétien, quel que soit notre domaine, c'est de faire le lien entre la vie où nous sommes, notre domaine, et la parole. Voilà. Et donc là, on va ouvrir quelque chose entre la parole est quelque chose de l'islam, mais on n'aura pas le temps. Hein. Ça va rester court, ce que je dois vous dire ce matin. Donc, on en a pour des années sur cette thématique. Et pendant les 20, 30, 50 ans, la question de l'islam va continuer de travailler ici en Suisse, en Europe et partout. Donc, voilà. Mais c'est vraiment cette préoccupation. C'est pour ça que fondement et stratégie chrétienne, fondement et stratégie musulmane, et puis je terminerai par une exhortation. Je me concentre bien sûr dans le livre sur l'islam conquérant, mais pour ceux qui ont lu le livre ou qui vont lire le livre, je parle tout autant de l'Occident conquérant et du christianisme conquérant. Donc c'est très important pour moi aussi de se rendre compte qu'il y a la réalité de cet islam conquérant. J'aime bien rappeler quand même que la grande majorité des musulmans ne sont pas des musulmans conquérants. C'est des personnes paisibles qui vivent à côté de nous, qui ont simplement envie d'avoir du travail, qui aimeraient que leurs enfants puissent réussir à l'école, qui puissent avoir une meilleure vie que ce qu'ils ont eu. Donc ces musulmans qui sont là, une partie de ma famille est musulmane, donc je sais qu'ils ne sont pas des conquérants. Donc vraiment, c'est pas l'ensemble des musulmans qui sont conquérants. Mais ayant dit ça, on doit aussi regarder qu'est-ce qui est conquérant dans l'islam. Mais de la même manière, il y a beaucoup de choses qui sont conquérantes dans l'Occident. Nous sommes, les pays occidentaux, exportateurs d'armes à travers le monde d'une manière incroyable. et des pays de tradition chrétienne et que nous vendons des armes à travers le monde entier. Même la Suisse est exportateur d'armes. Nous sommes 11e exportateur d'armes au monde. La Suisse, pays neutre. Voilà. Donc, on va parler de l'islam conquérant, mais il faut commencer à balayer devant sa porte. Hein. Alors, vous me direz, mais on ne doit pas parler de politique. La vente d'armes, c'est des questions politiques. Question de cohérence. On ne peut pas être un pays qui dit « nous avons des valeurs chrétiennes » et vendre des armes à des pays en guerre. Donc, il y a beaucoup à balayer devant sa porte. Vraiment beaucoup. Et j'aime bien rappeler cette parole de Jésus. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou bien comment vas-tu dire à ton frère, attends que j'ôte la paille de ton œil, seulement voilà, la poutre est dans ton œil. Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà, ça c'est l'état d'esprit dans lequel, en tant que chrétien, je crois que nous avons à être. D'abord, voir qu'est-ce qui est problématique chez nous avant d'oser commencer à critiquer ce qui est problématique chez les autres. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur nos propres égarements. J'aime bien rappeler simplement, au niveau du XXe siècle, les principales violences meurtrières du XXe siècle. Vous avez quelques chiffres devant vous. La Seconde Guerre mondiale, 50 millions de morts. Le régime de Mao Tse-tung en Chine, 48 millions de morts. Le régime de Staline, 20 millions de morts. La Première Guerre mondiale, 15 millions de morts, dont le génocide de près de 2 millions de chrétiens arméniens et assyriens par les Turcs. La guerre civile russe, 8 800 000 morts. Les guerres civiles chinoises, 6 500 000 morts. Si on regarde déjà cette liste des principales violences, ben, c'est parti de perspectives qui sont aussi nées en Occident. Que ce soit le marxisme, que ce soit après le stalinisme, après ça a été repris par le maoïsme, il y a eu le nazisme, il y a eu toutes ces grandes idéologies qui ont fait des millions de morts. L'islam n'apparaît pas, sauf pour les 2 millions de chrétiens arméniens et syriens tués par les Turcs, où très clairement, il y avait aussi à la fois une perspective nationaliste et musulmane qui a voulu que des millions d'Arméniens et de chrétiens soient persécutés ou mis à mort. Donc voilà, lorsqu'on va parler de l'islam conquérant, j'aimerais que vous gardiez ça en tête. On pourrait beaucoup parler encore de ça, j'en parle dans mon livre et puis dans la conférence je l'évoquerai aussi. Alors comme il était dit ici, les principales violences meurtrières du XXe siècle n'ont pas été commises au nom d'une religion ou d'un dieu, elles ont été commises au nom de matérialisme et de nationalisme sans Dieu et contre Dieu. À part la question de l'islam qui est intervenue pour la Turquie. Donc quand autour de nous on nous dit « Ah mais vous les gens qui croyez en Dieu, c'est vous qui êtes la principale cause des violences » pour le XXe siècle, non, c'est faux. Il faut qu'on arrête de nous dire que quand on est athée, on est paisible, et que quand on est croyant, c'est forcément guerrier. C'est faux. Voilà. Donc ce type-là d'argument qu'on nous rabâche en boucle, c'est faux. Alors si on voulait balayer devant sa porte, on pourrait aller très loin, mais c'est juste pour vous donner quelques exemples, avant bien sûr de parler de l'islam. Divers génocides et exterminations en Amérique latine, de 1492 à la fin du XVIIe siècle, la population indigène passe de 90 millions à 12 millions. Amérique du Nord, dès le XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe, les Amérindiens passent de 12 millions à 250 000. Alors ça a été quelque chose d'extrêmement conquérant de la part des puissances occidentales qui ont envahi partout sur la planète pratiquement, avec la complicité plus ou moins grande des églises. Les églises ont parfois freiné, les églises ont parfois humanisé, les églises ont parfois permis que l'évangile soit porté à côté par la création d'hôpitaux et d'églises, et c'est magnifique. Mais il y a eu parfois des complicités. Donc regardons ça aussi en face, avant de dire, voilà, attention, il n'y a que l'islam qui pose problème. La haine des juifs, de la part des églises chrétiennes, ça a été terrifiant. Tout un sujet en lui-même. Comment se fait-il que Jésus qui était juif, les premiers apôtres qui étaient juifs, et que dès que l'église est devenue pagano-chrétienne, sans être judéo-chrétienne, et lorsqu'il y a eu un lien avec l'État, ils ont massacré des juifs, ils les ont exploités, ils ont manifesté de la haine. La haine des chrétiens dissidents, vous le connaissez. Même chez nous, brave pays de Vaud, hein. Les réformés ont pu être très durs avec les personnes des églises libres ou des églises évangéliques. Et puis on se le vaut bien, ça se retourne bien. Hein. Donc voilà, il y aurait énormément à dire sur ces sujets. On peut parler des croisades, des conquêtes, des guerres de religion, etc. Je le rappelle tout de suite, quand les chrétiens ont tué et continuent de tuer, c'est contre l'Évangile. Vous ne trouverez rien dans l'Évangile qui justifie. Oui, dans l'Ancien Testament, vous pourrez trouver. Mais l'Ancien Testament, nous le lisons à la lumière des Évangiles en tant que chrétiens. On ne va pas prendre un texte de Josué à la lettre pour dire que ça continue d'être valable aujourd'hui. Ces grands corpus de l'Ancien Testament, il y a des très belles choses, mais il y a des choses très violentes aussi. Il y avait une perspective nationaliste, il n'y avait pas que la grâce, il y avait des perspectives aussi qui étaient de son temps. Et tous ces textes, nous les lisons à la lumière de Jésus. Et donc, notre appel, c'est d'être non-violent à la suite de Jésus. Donc, oui, il y a eu des croisades, mais les croisades, c'est contre l'enseignement de Jésus. Malheureusement, quand on va parler de certaines violences dans l'islam, on peut trouver une justification dans les textes fondateurs de l'islam. Alors voilà, fondement et stratégie chrétienne, c'est un sujet que vous connaissez bien, donc je ne vais pas prendre trop de temps, parce que c'est quelque chose que nous travaillons dans nos églises, on fait des conférences missionnaires, et c'est toujours intéressant, on fait beaucoup de réflexions de stratégie chrétienne, mais on s'intéresse peu au fond aux questions de stratégie des autres. Quelle est la stratégie bouddhiste? Parce qu'il y a une stratégie missionnaire du bouddhisme pour conquérir le monde. Il y a une stratégie du Nouvel Âge, il y a une stratégie de l'islam, voilà. Il faut les étudier. Alors ce matin, je vais rappeler quelques éléments de façon très courte, parce que c'est un sujet que vous connaissez très bien, fondement et stratégie chrétienne, avant de regarder le sujet suivant. S'il fallait prendre un seul verset pour résumer la foi chrétienne, qu'est-ce qu'on cite souvent comme verset? Jean 3,16. Alors, je pourrais dire, on va choisir autre chose. Non, je crois que je vais quand même reprendre Jean 3,16. Parce que Jean 3,16 nous dit quelque chose d'essentiel. Jean 3,16 nous dit la fondation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous le connaissez tous par cœur, cette parole. Et c'est bien. C'est un excellent résumé de la foi chrétienne. Dieu a tant aimé. Le point de départ de tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est l'amour. Et la finalité, c'est l'amour qui s'enracine en Dieu. Rien d'autre. Mais un amour juste, viril, lucide, dans la vérité. Ce n'est pas un amour mollachu. Puisque c'est un amour qui coûte. Puisqu'il est prêt même à donner sa propre vie. Dieu a tant aimé le monde, aussi le monde musulman, le monde occidental. Voilà, c'est notre point de départ. Et en tant que chrétien, ce qui nous motive, c'est l'amour. Donc aussi l'amour des musulmans, l'amour de nos citoyens, parce que, au fondement, c'est Dieu qui a aimé. Qu'il a donné son Fils, son unique. En grec, il y a un terme intéressant pour dire unique, c'est monogène. On pourrait dire monogène. Pour un être humain, il faut toujours des gènes, des deux. Il faut être bigène pour être un être humain. Jésus est monogène dans le sens qu'il est vraiment celui qui reflète l'image de son Père. C'est ça que ça veut dire. Jésus est celui qui va par excellence révéler son Père. Bien sûr, il y aura les gènes de Marie, mais dans son identité profonde, il est celui qui est l'image du Père. Ça, c'est le cœur de la foi chrétienne. Et puis, tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Notre objectif, c'est la vie éternelle. Et comme vous le savez, la vie éternelle, ce n'est pas après notre mort. Si la vie éternelle est que nous la recevons maintenant, elle commence maintenant, la vie éternelle. Si nous recevons la vie, et si Jésus vit en nous, la vie éternelle est déjà maintenant présente. Sinon, c'est une vie après la mort. La vie éternelle, c'est maintenant. On reçoit cette vie maintenant et qui nous permet de tenir le coup dans les épreuves que nous vivons tous. Vous connaissez bien sûr la suite du texte, mais je trouve que ça vaut la peine de le relire, parce qu'on se focalise des fois sur Jean 3,16, et puis c'est bien d'avoir juste le rappel de la suite. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est ou haït la lumière et ne vient pas à la lumière, de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. C'est là qu'on voit ce que Jésus veut dire, la vie, la vérité. C'est de pouvoir exposer sa vie à la lumière et de ne pas se cacher. Et ça, c'est les pires des choses. C'est quand on commence à avoir des manœuvres par derrière et on ne vit pas dans la lumière. La présence du Christ, c'est de pouvoir mettre en lumière ce qui est problématique dans nos vies. Et ce qui est problématique, c'est dans chacune de nos vies. Et ce n'est pas d'abord dans la vie des autres. Être chrétien, c'est de faire la vérité. Hein. Ce n'est pas penser la vérité. Nous, la vérité, c'est quelque chose qu'on pense. Faire la vérité, c'est de venir aussi à la lumière. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que l'Esprit est en train de faire dans nos vies et dans nos églises, c'est se laisser transformer. Alors tout cela, vous le connaissez bien. S'il fallait prendre un texte de stratégie, après avoir parlé, rappelé ses fondations, c'est peut-être cette grande parole de Matthieu 28. Vous connaissez aussi tous, hein, c'est des choses qu'on médite constamment dans nos églises, surtout les églises évangéliques, vous avez très à cœur, à juste titre, l'évangélisation. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Littéralement, c'est « étant allé », c'est pas « aller », mais « étant allé », donc « discipler ». On pourrait dire « discipliner », mais « discipline », ça fait un peu scolaire. Hein. « Discipler », c'est-à-dire faire des disciples. « Toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. On est mis en route, et l'objectif de Jésus, c'est de faire des disciples. De la même manière que je deviens disciple, que nous devenons disciples du Christ, nous sommes appelés à faire découvrir l'enseignement du Christ et qu'autour de nous, des personnes deviennent disciples. Ça, c'est le cœur. Bien sûr, après, il y a plusieurs choses. Alors, s'il fallait synthétiser, fondement, c'est l'amour de Dieu pour le monde en Jésus. Ça, c'est nos fondations en tant que chrétiens. Afin que le monde, aussi le monde musulman, soit sauvé. Europe shall be saved, hein, c'est ce mouvement qui rassemble des chrétiens un peu de toutes les églises maintenant pour dire, voilà, on va prier pour l'Europe. Et c'est important que toutes nos églises se mettent ensemble pour cela. But the world shall be saved. Alors, amour en action, devenir disciple du Christ et encourager ceux autour de nous à le devenir, à le rester. Et ça susciter toutes ces manières d'être, les églises, les écoles, les hôpitaux, les lieux de service, pour faire rayonner l'amour du Christ. Alors attention, ça c'est les belles valeurs de l'Évangile, ça c'est les belles stratégies, mais on voit que ça a été parfois compliqué quand on était en lien avec des États conquérants et qui utilisaient l'Église pour avancer ses propres pions. Et attention, quand il y a des stratagèmes mêlant amour, pouvoir, argent. Et ça c'est jusque dans le cœur de nos églises. Chacune de nos églises est tentée par des jeux de pouvoir, par des jeux où on a envie de faire avancer sa propre vision de l'Église, ou des problèmes d'argent, ou de sexe, ou voilà. Il y a, dans chacune de nos églises, il y a un mélange et qui demande notre propre sanctification. Voilà. Tout ça, c'est des choses que vous connaissez. Donc, on pourrait dire beaucoup plus, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Alors, passons maintenant à l'autre sujet, fondement et stratégie musulmane. S'il fallait prendre un verset, comme je l'ai fait pour Jean 3, 16, pour la théologie musulmane, j'ai choisi cette parole qui dit quelque chose d'essentiel au niveau de la théologie du Coran et de ce qui est au cœur de l'identité musulmane. Et pour les musulmans, en fait, ils vont lire l'ensemble du Coran et de leur foi à partir de cette parole qui est la suivante. « Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, dit, donc c'est Allah qui parle, dit, c'est lui, Dieu l'unique, Dieu le suprême refuge, qui n'a jamais engendré et qui n'a pas été engendré et que nul n'est en mesure d'égaler. » Alors voilà, c'est une parole très forte sur l'unicité d'Allah. Dieu est unique. Et là, les chrétiens peuvent dire, oui, ben Dieu est un, il est unique. Il est le suprême refuge, oui, c'est notre suprême refuge. On l'a chanté tout à l'heure. Hein. Mais après, vous avez cette phrase qui vient juste après, hein, qui n'a jamais engendré et qui n'a pas été engendré. Que Dieu n'a pas été engendré, on le comprend bien. Il n'a pas été engendré par quelqu'un d'autre. Mais qui n'a jamais engendré. C'est quoi le front polémique? Et le front polémique, c'est Jésus. Donc déjà, dans cette confession, vous avez quelque chose à la fois qui est très beau et qui est très séduisant, mais ce qui est visé, c'est la personne de Jésus, telle que les chrétiens l'ont compris. Alors c'est tout un sujet en lui-même, compréhension de Jésus dans le Coran ou dans les hadiths, etc. Mais voilà. Ce que vous savez peut-être, c'est que si on prend la dédicace du Dôme du Rocher à Jérusalem, hein, il y a cette, à l'intérieur du bâtiment, il était inscrit en arabe, et donc je vous rappelle, donc Dôme du Rocher se situe là, il y avait l'emplacement du temple. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. Le temple avait été détruit par les Romains, les églises chrétiennes ont occupé Jérusalem, ils n'ont pas été très tendres avec les Juifs, ils ont été même extrêmement violents à l'égard des Juifs, ils ne voulaient plus que les Juifs viennent parfois même à Jérusalem. Donc ils ont été extrêmement violents, et l'esplanade du temple, ben voilà, les chrétiens n'ont pas voulu vraiment occuper, mais une petite chapelle à un moment donné qui a été faite, mais ce n'était pas important. Et donc, quand les armées musulmanes sont arrivées, quelques décennies après, quand ils ont conquis Jérusalem, à la fois par la menace, la violence, et nous avons des textes que je cite aussi dans mon livre, on voit le patriarche de Jérusalem qui parle de cette dévastation des armées musulmanes et les horreurs que ça signifiait, les femmes en esclavage, les mises à mort, ça a été vraiment très violent. L'entrée dans la ville a été relativement paisible, mais il y avait eu ces saccages qui ont eu lieu. Et bien évidemment, il y a eu la construction, la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher. Je n'entre pas dans les détails. Mais ce qui est à l'intérieur, voilà, c'est une parole polémique à l'égard des chrétiens et des juifs. « Aux gens des Écritures, ne soyez pas excessifs dans votre religion, dites uniquement la vérité sur Dieu. Le Messie Jésus, fils de Marie, est seulement l'envoyé de Dieu. Son Verbe déposé dans le sein de Marie, un esprit émanant du Seigneur. Croyez en Dieu et en ses prophètes, mais ne parlez pas de Trinité. Cessez d'en parler dans votre propre intérêt, il n'y a qu'un seul Dieu. Il est trop glorieux pour avoir un fils. » N'est-il pas le maître des cieux de la terre? N'est-il pas suffisant comme protecteur? Voilà. Donc c'est une interpellation très critique. Hein. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont fui ça. Sur le lieu même où les chrétiens vivaient, où il y avait le temple, voilà, une interpellation aux gens des Écritures. C'est tout un sujet, je n'ai pas le temps non plus. Hein. Jésus, dans le Coran, Amar le connaît extrêmement bien. Il a écrit quelque chose de très utile à ce propos. Donc il y a des choses qui sont justes, mais des choses qui sont complètement fausse par rapport à ce que nous enseigne le Nouveau Testament. De la même manière que Jean 3,16 nous rappelle l'importance de la vie éternelle, et nous, pour nous c'est important, même si pour beaucoup de nos concitoyens, on se préoccupe surtout de la vie, qu'est-ce qui vient après, beaucoup de gens ne s'y intéressent pas, nous savons, nous sommes de passage sur cette terre. L'adhésion à l'islam, pour les musulmans, est une question de vie ou de mort et de destinée éternelle. Ce n'est pas qu'un débat intellectuel ou citoyen. Une partie importante du Coran est consacrée à l'enfer et au moyen d'y échapper par le seul moyen qu'est l'islam. Voilà, donc autant que nous rencontrons, vous avez tous rencontré des musulmans, qu'on parle avec eux, ce n'est pas juste un débat intellectuel ou politique. Non, comment est-ce que je vais échapper à l'enfer? Comment est-ce que je vais pouvoir entrer au paradis? Ça, c'est la préoccupation des musulmans. Et nous pouvons comprendre cette préoccupation. Beaucoup de nos politiciens peut-être ne vont pas comprendre ça. Mais il y a une vraie soif spirituelle. Il y a une volonté d'échapper à l'enfer. Et pour eux, pour les musulmans, qui n'ont pas d'autres textes, parce qu'ils vont dire que la Bible est falsifiée, il ne faut pas la lire, ce qui est un problème en lui-même, mais ils vont espérer trouver dans l'islam la vérité. Parole du Coran, « Quiconque recherche en dehors de l'islam une autre religion, celle-ci ne sera point acceptée de lui, et dans l'autre monde, il sera du nombre des réprouvés. » C'est une question de vie, de mort, qui se joue là derrière. Voilà. Donc, lorsqu'on parle avec des musulmans, il faut le savoir, c'est ça aussi, c'est la préoccupation. Et pour les musulmans, après, il va y avoir la perspective de dire « Mais si on suit Mohammed, si on suit le Coran, eh bien, on a l'espoir, on espère pour aller échapper au supplice de la tombe. Je rappelle le supplice de la tombe, c'est que lorsqu'on est enterré, il y a des anges qui viennent interpeller le croyant. Et s'il arrive à dire la confession de foi musulmane, alors ça ira. Mais s'il n'arrive pas à la dire, il va hurler de douleur parce qu'ils vont être châtiés. Et c'est la raison pour laquelle les musulmans ne veulent pas être dans une même tombe à côté des chrétiens. Ce n'est pas juste pour être orientés vers la Mecque. Ils sont convaincus que dans les autres tombes, les non-musulmans sont en train de souffrir, en train de hurler de douleur. C'est pour ça qu'ils veulent que ça soit séparé. Ils ne veulent pas être dans une tombe avec des gens qui vont souffrir, qui vont hurler de douleur. Mohammed lui-même n'était pas sûr d'échapper au supplice de la tombe. Mohammed n'était pas sûr de pouvoir y échapper, parce que lui-même, on voit, dans le hadith, il en parle avec sa femme Aïcha, et puis Mohammed priait tous les jours, « Je veux être libéré du supplice de la tombe. » Entre Jésus, la confiance, la paix, et tout ce qu'il a donné, et cette angoisse que Mohammed a eue, c'est deux mondes. La paix, selon la foi musulmane, Allah est celui qui donne la paix. Pour eux, l'islam est une religion de paix et l'unique moyen de trouver la paix. C'est comme ça qu'ils comprennent. Mais lorsqu'on va plus en profondeur, on voit que c'est plus compliqué. Mais c'est ça, voilà. Ils espèrent la paix. Donc, dans le Coran et les hadiths, les propos de Mohammed, la deuxième source de révélation de l'islam, comme dans toute la tradition musulmane et la vie de beaucoup de musulmans, il y a de beaux exemples et des belles paroles de paix. Donc, lorsqu'on parle des questions conquérantes, il ne faut pas non plus oublier ça. Et les musulmans paisibles, ils vont puiser dans ces textes-là. La générosité, l'hospitalité, l'accueil, le souci de l'étranger, prendre soin de sa famille, voilà. Donc, ce ne sont pas d'abord des monstres. Hein. C'est un peu, des fois, quand on veut être tellement polémique, non, ça, on ne peut pas, on doit être dans la vérité. Venons-en aux stratégies. Alors là, je trouve qu'il y a un auteur qui a très très bien résumé les grandes étapes de la vie de Mohammed. Dans la conférence, je reviendrai, on ira dans les détails, mais je vous donne juste quelques éléments de façon synthétique. Voici ce que cette personne dit. Au début, alors que le prophète Mohammed donc est isolé et qu'il y a peu de musulmans, Dieu lui conseille d'éviter les affrontements. C'est la raison d'être des versets pacifiques. Lorsque Mohammed était à la Mecque, il a essayé d'appeler au Dieu unique, à plus de justice, etc. Il a été confronté. Mais il était minoritaire et alors il a gardé un profil relativement bas, parce qu'il n'avait pas le pouvoir, il pouvait pas dominer. Donc on va trouver beaucoup de versets pacifiques de cette période-là. Et donc, cette utilisation des versets pacifiques, c'est l'utilisation de ces versets quand on est en minorité. Et dans le débat avec des musulmans aujourd'hui, ils nous disent constamment, ils vont nous citer ces versets pacifiques, parce qu'ils savent qu'ils sont en minorité, et voilà, ils vont dire que tout l'islam, c'est ces versets pacifiques. C'est faux. Mais il y a aussi ces versets pacifiques. Oui, c'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais c'est des stratégies. On y reviendra sur la complexité des stratégies. On doit les étudier. Donc il y a une stratégie de paix quand on ne peut pas accéder au pouvoir politique. Et on invite à la paix. Nous sommes une religion de paix et on cite que les beaux versets. Après 622, lorsque la communauté s'est établie à Médine, Dieu incite les musulmans à pratiquer des guerres défensives. Donc, avant, il n'y avait pas de guerre. Maintenant, c'est défensif. On nous agresse, alors, puisqu'on nous agresse, il faut se défendre. Et là aussi, les musulmans vont dire, j'ai eu des débats avec Tariq Ramadan ou d'autres, l'islam, c'est d'abord défensif. On ne va jamais être offensif. C'est tout faux. À cette période-là, c'était défensif. C'est vrai, il y a une période défensive, mais c'est juste une période. Donc, les musulmans sont appelés à pratiquer des guerres défensives. Puis, au fur et à mesure que la communauté s'accroît en nombre et en force, les révélations élargissent et généralisent des incitations à la guerre et réduisent au contraire les restrictions à l'action violente. Donc, pacifique, défensif, mais quand il y a le pouvoir, on peut être agressif et offensif. Tariq Ramadan dit « Nous, c'est uniquement défensif le djihad ». C'est faux. Il suffit de lire les écrits de son propre grand-père, Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans, qui ne fait que citer le Coran et les hadiths. C'est offensif. Quand on a le pouvoir, il faut être offensif. Enfin, lorsque la cause musulmane l'emporte en Arabie sur celle des adversaires, la révélation pose le principe que la guerre contre les non-musulmans peut être menée pratiquement tout le temps et partout, sans nécessité de prétexte. Les révélations qui vont dans ce sens sont considérées comme abrogeant les précédentes qui se réfèrent à un état dépassé de la communauté. Voilà. Déjà, vous avez le nombre de stratégies qu'il y a là dans ce texte. Quand on est faible, quand on est un peu plus fort, et quand on est très fort. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments-là. Je rappelle dans mon livre que Mohammed était à la fois un prophète, il était un homme politique, il a été un stratège militaire. Et l'islam, c'est les trois. Il y a quelque chose d'une spiritualité communautaire, c'est un projet politique, et puis c'est une stratégie militaire. Et nous, lorsqu'on pense religion, on n'arrive pas à imaginer qu'une religion puisse avoir une stratégie militaire, ce qui fait qu'on n'arrive pas à dialoguer. C'est pour ça que mon livre ne s'adresse pas uniquement aux chrétiens, il s'adresse au monde politique, il s'adresse aux généraux, il s'adresse à ceux qui ont une perspective aussi de défense militaire de notre pays, parce que personne ne lit ces textes d'une manière intelligente, pour le moment, en tout cas chez nos politiciens. Voilà. Donc, l'islam, c'est cette complexité-là. Du pacifique, du défensif, mais de l'offensif aussi. Vous avez cette parole que Ammar a très bien valorisé, mais ce n'est pas lui qui valorise. Lorsque vous lisez les hadiths de Boukhari, la deuxième source de l'islam, il y a des paroles entières sur les stratégies militaires. Comment s'y prendre pour conquérir le monde? Des centaines de paroles. Et la parole du Coran qui introduit ces hadiths, c'est précisément cette parole-ci. Échange entre Allah et les croyants. En vérité, Dieu a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans la voie d'Allah, ils tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle à sa promesse que le Seigneur? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez effectué, n'est-ce pas que c'est là le comble de la félicité? Ça, c'est le cœur d'une certaine alliance, si vous voulez. Il y a un échange entre Allah et ceux qui doivent le suivre. Il y a une alliance. Mais si tu as une alliance, on doit être prêt à tuer et à être tué. Tuer. Dans les versions qu'on donne, édulcorer, c'est combattre. Non, le verbe katal, c'est tuer et être tué. Donc, il y a eu une falsification qui s'est faite par les intellectuels dans nos traductions pour amadouer. Voyez la différence entre Jésus qui venait à la vérité et caché. Vous avez le droit de mentir. Le Coran permet de mentir parce que si on est en guerre, en période de guerre, il faut savoir mentir pour arriver à ses fins. On peut comprendre. En temps de guerre, parfois, il faut savoir mentir. Si quelqu'un frappe à votre porte et que vous protégez un juif pendant la Seconde Guerre mondiale, vous allez dire la vérité ou pas? Peut-être qu'il faut mentir. Donc, en temps de guerre, le mensonge a sa place. Mais si la guerre devient une stratégie mondiale de conquête, ben, le mensonge va continuer d'avoir sa place. Mais arrêtons, mettons en lumière les choses. Allah a fait une alliance avec les musulmans. Lui, il reçoit leurs biens et leurs personnes et leur promet le paradis. On y revient. En contrepartie, les musulmans s'engagent totalement pour Allah, étant prêts à tuer et à être tués. Une fois de plus, la plupart des musulmans ne veulent pas mettre ça en pratique. Mais ceux qui reviennent au texte fondateur, ils connaissent très bien ces textes. Et ils vont interpeller les musulmans mous, libéraux, en disant « Mais non, non, il faut être prêt. Il faut être prêt à vivre autre chose. » Le but de mon livre, c'est de présenter des dizaines et des dizaines de ces textes. J'en prends 2-3 ce matin. C'est juste pour vous donner un aperçu. On dit souvent « L'islam n'a rien à voir avec la terreur. » Même le pape, il le dit. « Islam et terreur, il n'y a aucun lien. » C'est faux. Peut-être c'est un discours diplomatique qu'il doit avoir pour se faire entendre. Mais ce n'est pas ce que disent les textes fondateurs de l'islam. C'est faux. Ça, c'est un hadith. Voici ce que le messager de Dieu a dit. « J'ai été avantagé sur les autres prophètes par 6 choses. M'ont été données les paroles synthétiques. M'a été donnée la victoire par l'effroi. Les butins de guerre m'ont été rendus licites. » On a fait pour moi de la terre un élément pur et purifiant et une mosquée. J'ai été envoyé à l'ensemble des créatures et par moi a été scellée la succession des prophètes. Voilà. Donc c'est une parole fondamentale de Mohammed. Il a reçu des choses que les autres n'ont pas reçues. synthétique, c'est-à-dire qu'il a, il a fait une synthèse de toutes les révélations, donc on n'a plus besoin de lire ni la Bible ni les évangiles, ce qui est une vraie catastrophe. C'est qu'on va interdire la lecture de la Bible parce que, on va dire, la synthèse, elle est là. Puis tout le reste, c'est faux, c'est altéré, c'est faux. Ce qui fait que dans les pays musulmans, il n'y a pas libre accès à la Bible. C'est extrêmement difficile parce que là aussi, ils ne veulent pas venir à la lumière. S'ils avaient la liberté de dire, alors prenons les évangiles, distribuons-les dans toutes les écoles et on compare. Non. Donc il y a une parole synthétique. M'a été donnée la victoire par l'effroi, la terreur. Allah jette la terreur dans le cœur de ses ennemis. Ce qui fait que vous avez des groupes terroristes qui vont se baser là-dessus, de dire il faut jeter la terreur. Et la terreur, c'est une des stratégies que les groupes utilisent. Nous, on dit, ah non, 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 le terrorisme, le djihadisme n'a rien à voir avec l'islam. C'est faux. C'est faux, de grâce, arrêtons de mentir. C'est dans les textes. Et les musulmans, lorsqu'ils sont vraiment très radicaux et qui reviennent aux racines, ils vont mettre ça en pratique. De dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, non. Les butins de guerre m'ont été rendus licites. Alors si on prend la pratique de la guerre, c'est un des sujets qu'on peut travailler, mais il y en a plein d'autres, le statut de la femme, la liberté de conscience, tous ces, je n'ai pas le temps d'en parler ce matin. Mohammed a certes dit de nombreuses paroles de paix, mais il a aussi justifié la décapitation de ses ennemis et la torture. C'est dans les textes. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Il a justifié le butin de guerre et l'esclavage. Noir sur blanc. Justifier l'utilisation d'esclaves sexuels, noir sur blanc. Justifier l'utilisation du mensonge à l'égard des ennemis. Il a été chef militaire avec la conviction qu'Allah l'accompagnait et donc il avait tout ça. Alors une fois de plus, quand je parle avec des musulmans, je dis mais vous n'y pouvez rien, c'est vous hériter de ces textes. Mais arrêtez de dire que ce n'est pas dans vos textes. Arrêtez. Et quand l'État de Vaud dit « on veut ouvrir la reconnaissance aux communautés musulmanes, mais on ne veut pas regarder le contenu », il suffit que les imams nous disent « on accepte les principes démocratiques ». C'est de l'aveuglement. On ne peut pas laisser des communautés musulmanes venir avec tous ces textes de haine à l'égard des femmes, des juifs, des non-musulmans, et se baser sur leur bonne volonté, nous acceptons les valeurs démocratiques. Parce que c'est stratégique. Ils ne vont pas, bien sûr, dire « nous sommes pour tout ça ». Ils doivent pouvoir dire pourquoi ces textes ne sont plus valables aujourd'hui. Et s'ils ne disent pas pourquoi, c'est un aveuglement de la part de nos autorités de simplement ouvrir la porte. Voilà. Alors, l'islam conquérant, on va dire que c'est M. Keshavji. Je commence à recevoir des mails maintenant où m'agresse en disant « c'est moi le fautif ». Que c'est moi qui suscite la polémique. Que j'aurais jamais dû parler comme ça. L'islam conquérant, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est les textes fondateurs de l'islam qui le disent, c'est les grands historiens de l'islam qui le disent, ce sont les musulmans eux-mêmes qui disent « nous allons vous conquérir ». Alors quand c'est celui qui dit « attendez, ils disent qu'on veut vous conquérir » en disant « c'est moi qui crée la polémique ». Ça, c'est fort de tabac quand même. Je dis simplement, il y a des personnes qui disent une fois de plus, pas tous les musulmans, mais ces musulmans qui connaissent bien leur texte, ils disent « on va vous conquérir ». Là, vous avez un grand historien de l'islam, un musulman. Voici ce qu'il dit dans la communauté musulmane. « La guerre sainte est un devoir religieux parce que l'islam a une mission universelle et que tous les hommes doivent se convertir de gré ou de force ». Et il ne dit rien de spécial. Il dit que ce que disent les textes fondateurs de l'islam. Il n'invente pas, ce n'est pas un extrémiste. Il résume très bien. Tous les hommes doivent se convertir de gré ou de force. De gré, donc on va créer des mosquées partout en Europe, de gré, on va essayer de les montrer les beaux visages de l'islam. Mais s'ils ne veulent pas se convertir de gré, ça va être de force. Alors maintenant, ils n'ont pas le pouvoir militaire, donc chez nous, ils ne peuvent pas le faire. Mais là où ils sont majoritaires, ils peuvent utiliser la force. Donc c'est un musulman lui-même qui dit, et je pourrais vous en citer plein d'autres de musulmans qui disent tout cela. Il termine par dire « ceux qui détiennent le pouvoir dans les autres, donc les communautés non musulmanes, n'ont pas l'obligation de dominer les autres nations comme dans l'islam. Tout ce qu'on leur demande, c'est d'établir leur religion chez eux. » Donc, il voit bien qu'il y a une spécificité. L'islam doit dominer le monde aussi politiquement et militairement. Alors, j'aimerais rappeler pourquoi est-ce que les stratégies musulmanes ont si bien fonctionné. C'est parce qu'il y a eu des divisions chrétiennes incroyables et ces divisions chrétiennes ont chaque fois été utilisées par les musulmans. C'est une des choses que j'ai découvert par ce travail. l'islam a progressé chaque fois que les chrétiens étaient désunis. Chaque fois. Comme si c'était un jugement de Dieu sur l'Église qui était arrogante, de grâce, entrant dans une attitude d'humilité partout, dans nos communautés, entre nos communautés, soyons témoins du Christ Seigneur. Mais nous perdons un temps et une énergie, alors que dans l'histoire, il y a eu cet élément-là. Je vous rappelle, dès la fin du IVe siècle, la chrétienté était divisée entre l'Empire romain d'Occident, avec le patriarcat de Rome, et l'Empire romain d'Orient, avec les patriarcats de Jérusalem, d'Antioche, d'Alexandrie et de Constantinople. Voilà, donc 5 patriarcats. C'est comme ça que ça s'est organisé, très rapidement. Et avec les conquêtes musulmanes, très vite, Jérusalem, Antioche et Alexandrie sont tombées. Il a fallu attendre des siècles. Déjà au IXe siècle, il y a eu une conquête de Rome, mais ça n'a pas duré longtemps, ils ont été repoussés. Ils ont essayé de prendre Constantinople pendant des siècles. Et c'est en 1453, comme vous savez, que Constantinople est tombée. Et Constantinople ne serait jamais tombée s'il n'y avait pas eu la haine entre les catholiques et les orthodoxes. Constantinople a été abandonnée par la chrétienté latine. Et donc Constantinople est tombée. Et maintenant, vous savez très bien, en Turquie, il y a très très peu de chrétiens qui arrivent à vivre. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'objectif, c'est 5e patriarcat, la prise de Rome. Le but, c'est après avoir pris les 4 patriarcats, c'est prendre Rome. Selon un hadith, Mohammed aurait affirmé qu'entre Hirkil, Constantinople, la cité de l'empereur Héraclius, et Romia, Rome, Hirkil serait la première à être conquise. Donc on lui a posé la question, mais laquelle va être conquise en premier? Mohammed a dit, ça va être d'abord Constantinople. Mais ça veut dire implicitement que la prochaine ville qui va être prise, c'est Rome. Et c'est à partir de ça que vous avez les frères musulmans, Qaradawi, qui est la référence spirituelle. Qui avait entendu parler de Qaradawi? Quelqu'un connaissait Qaradawi dans la salle? Oui, une personne, bon, bien sûr, Omar, mais une personne. C'est incroyable. Qaradawi, c'est le maître à penser des frères musulmans, le maître à penser de Tariq Ramadan. Il a écrit des bouquins qui sont vendus par millions, et en Suisse, en Europe, on ne l'étudie pas. Mais Qaradawi ne fait que redire les textes fondateurs, il ne dit rien de spécial. Mais il reprend, donc, il va dire la prochaine ville à tomber, c'est Rome. Et donc, derrière Rome, c'est toutes les capitales européennes. Genève, bien sûr. Pas par hasard qu'ils sont venus à Genève créer la mosquée saoudienne, à Bruxelles, etc. Le but, c'est d'islamiser et de conquérir Rome. Les conquêtes musulmanes, c'est tout un sujet en lui-même. Voilà, ça a été fulgurant, ça a été très rapide. Vous avez même ce titre, hein, de l'Orient vers l'Occident, l'islam conquérant, qui parle de l'histoire. Mais on va pas prendre tout ça. Les conquêtes ottomanes, comme vous savez, ils ont voulu avancer. Une bonne partie de l'Afrique du Nord et de partie de l'Europe de l'Est a été conquis par les Turcs, par l'Empire ottoman. Puis peu à peu, ils ont été refloués. 1523, siège de Vienne. Et là, l'Europe a commencé à reprendre le dessus. Ils ont cessé de vouloir simplement se laisser conquérir. L'Afrique du Nord était sous domination musulmane. Les pirates venaient et des centaines de milliers de femmes occidentales ont été prises comme esclaves sexuelles, se sont retrouvées dans les harems. Et à un moment donné, les armées ont dit stop. Et il y a eu une réaction face à cette violence pour dire on va se défendre maintenant. Donc il y a eu tout l'élément colonialiste qui nous critiquons constamment, mais on oublie que l'arrière-fond, c'était les pirates musulmans qui voulaient conquérir aussi la partie de l'Europe. Alors, l'expansion du monde musulman, le domaine de la paix et le domaine de la guerre. Le domaine de la guerre, nous sommes pour eux le domaine de la guerre. Alors, les musulmans disent, c'est pas vrai, vous êtes le domaine du témoignage maintenant. Parce qu'ils vont dire, Mohammed, à la Mecque, c'était un témoin. Donc, c'est un peu la même situation. Ils reprennent les mêmes catégories, mais quand même, c'est pour dire, quand nous serons majoritaires, nous allons vous conquérir. Voilà. Alors, j'avance. Il y a des musulmans qui se limitent à une spiritualité communautaire. Il y a des musulmans qui prennent la spiritualité communautaire et le projet politique. Et les musulmans qui prennent la spiritualité communautaire, le projet politique et la stratégie militaire. Voilà. C'est pour ça que c'est compliqué. Beaucoup de musulmans ne veulent pas de projet politique. Ils ne veulent pas de stratégie militaire. Et les autres ont beau jeu de leur dire, attendez, mais quand vous revenez à vos sources, vous ne pouvez pas, vous êtes des musulmans tièdes. Vous êtes des musulmans infidèles, parce qu'il faut prendre le tout. Voilà. Alors, si on regarde, je terminerai avec ça, quelques éléments de stratégie très concrètes. Dans le rapport entre religion et politique, il y a une grande diversité. Je suis désolé, c'est un peu complexe ce que je vous dis, mais la situation est complexe. J'essaie de simplifier déjà à l'extrême, mais on ne peut pas ne pas étudier cette complexité. Donc, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Il m'a fallu 5 ans pour écrire ce livre. Donc, en 2 jours, vous allez avoir quelques outils, mais il faut prendre du temps. Parce que ce n'est pas anodin ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas anodin. Alors, il y a certains qui disent l'islam, c'est vraiment le côté libéral, mystique, populaire. L'islam radical, c'est l'islam des États, ou alors qui revient aux racines, puis le djihadisme, c'est révolutionnaire. L'islam, c'est le tout. On ne peut pas séparer. Voilà. Mais c'est vrai que certains se limitent à cette diversité, à un élément. Alors dans mon livre, je présente cette grande diversité des musulmans, mais je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Mais j'aimerais évoquer pour finir quelques stratégies très concrètes qui sont mises en place aujourd'hui. La stratégie la plus visible et la plus tangible, la plus voilà, terre à terre, c'est ce qu'on voit tous les jours. Au niveau du foyer, un musulman a le droit d'épouser une chrétienne. Un chrétien qui épouse une musulmane doit se convertir. On connaît bien, entre catholiques et protestants, on a fait la même chose pendant longtemps. Donc, ce n'est pas neuf, mais c'est intelligent. C'est intelligent. Ils sont très intelligents dans leur stratégie. C'est nous qui sommes stupides. Voilà. Donc, il faut étudier leur stratégie. Ils sont plus intelligents que nous, pour le moment. Donc, un musulman a le droit d'épouser une chrétienne, un chrétien qui épouse une musulmane doit se convertir. C'est dans le Coran. Les enfants de couple sont nécessairement musulmans. Donc, voyez, dans nos églises, on ne parle jamais de ça. Et quand un jeune chrétien commence à fréquenter une musulmane et qu'on ne l'a pas préparé à ça, et tout à coup la famille lui dit « mais ce serait bien que tu te convertisses à l'islam, s'il n'est pas prêt, et puis si la femme, il préfère sa femme à sa foi, ben, il va accepter. » Et des dizaines de milliers sont devenus musulmans de cette manière-là. Et comme les enfants doivent être forcément musulmans, voilà, donc il y a une islamisation. C'est une stratégie basique. Mais il faut la dire, mettre en lumière et de former dans nos églises en disant non. Soyez prudents. Dans l'indifférence générale des responsables d'église et du monde politique, une lente islamisation se fait en Europe au niveau des couples et des familles. Non violente, bien sûr. Mais nous, on voit comment ça se passe. Moi, il y a des dizaines de personnes qui sont venus me voir, qui me parlaient de cette situation. Moi, je leur ai dit, mais tenez ferme dans votre foi. Ne cédez pas. Vous êtes chrétien, acceptez de ne pas vous convertir à l'islam. Ah non, non, mais c'est compliqué. Et c'est là qu'il y a toutes ces micro-lâchetés, les gens qui cèdent. Alors, les stratégies, très rapidement, c'est un peu long, je suis désolé, mais j'arrive bientôt à la fin. Au niveau des stratégies, il y a des stratégies étatique. Et ça, au niveau des stratégies étatiques, nous, chrétiens, on est très mal formés, parce qu'on a tellement intégré, je pense spécialement vous, les églises évangéliques et libres, ont une séparation religion et politique, vous imaginez que les autres font la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Il y a un lien très clair entre islam et politique, parce que pour un musulman ne peut être pleinement musulman que si l'État est musulman. On n'est pas musulman pleinement sinon, parce qu'on n'est pas, on doit vivre comme Mohammed. Erdogan, le président de la Turquie, « Les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles sont nos casques, les mosquées sont nos casernes et les croyants notre armée. » Il est proche des frères musulmans, mais il ne fait que dire l'islam. Voilà. Donc, vous avez un président qui dit ça. Et nous, on ne parle que d'économie. Comment est-ce qu'on va ouvrir nos marchés à la Turquie? Comment est-ce qu'on intègre la Turquie à l'Union européenne, etc. Il dit très clairement, une mosquée, ce n'est pas juste une mosquée, on va prier gentiment. C'est un lieu d'expansion de l'islam. Vous avez cette autre organisation extrêmement puissante, l'organisation de la conférence islamique. Organisation de la coopération islamique, pardon, ils ont changé leur nom. Ils ont écrit un texte, Stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique. Qui parmi nos politiciens a lu ça? Qui dans nos églises a lu ça? Un document noir sur blanc, ils disent comment ils vont conquérir l'Occident. Nos valeurs occidentales sont décadentes, le peuple occidental est décadent, et ils vont islamiser nos pays. Noir sur blanc, cette stratégie. Et nous ne l'étudions pas. On ne s'intéresse pas, nous disent les politiciens, on ne s'intéresse pas au contenu religieux. Mais c'est de l'irresponsabilité. Les gens disent on va vous conquérir, puis nous on ne s'intéresse pas au contenu. Heureusement en France, vous avez cet homme, Jean-Frédéric Poisson, qui est le président du Parti chrétien démocrate. J'ai eu un bon échange avec lui. C'est un homme qui a étudié ce texte de l'Organisation de la coopération islamique, qui connaît bien l'islam et le Coran, et qui a osé écrire un livre là-dessus. Vraiment, c'est un livre que je vous conseille de lire. Donc, ils ont énormément de pouvoir. C'est 57 États. Ce n'est pas des individus, c'est des États. Et ils influencent l'ONU. Moi, j'avais confiance en l'ONU pendant longtemps. L'ONU est infiltrée par l'Organisation de la coopération islamique. Au niveau des commissions des droits de l'homme, au niveau des groupes qui réfléchissent au lien avec la Palestine ou Israël, tous ces groupes-là sont influencés par l'Organisation de la coopération islamique. Ils ont des milliards, ils investissent des hommes clés pour islamiser les organisations internationales. Les frères musulmans, il y a un document noir sur blanc comment les frères musulmans vont occuper la Suisse, l'Europe. C'est un document qui a été retrouvé ici dans une enclave italienne au Tessin. C'est un journaliste du temps, Sylvain Besson, qui l'a fait. Voilà, vous avez cet autre document noir sur blanc. Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, parce que l'islam visait la domination universelle, le djihad, était une obligation communautaire qui devait être accomplie par l'assujettissement et la conversion du monde non islamique. Toujours la même chose. Il ne dit rien de neuf. C'est que les textes fondateurs. Dans les cas des gens du livre, ils pouvaient éventuellement conserver leurs anciennes religions s'ils se soumettaient à la règle de l'islam et acceptaient de payer la jizya. Donc c'est un impôt spécifique. Théoriquement, tous les autres peuples qui pouvaient être désignés comme idolâtres étaient contraints d'accepter l'islam, l'esclavage ou l'élimination. Rien de neuf. Il dit simplement les textes fondateurs. Largement conçu comme offensif, le djihad pouvait être défensif si le domaine de l'islam était menacé par un ennemi extérieur. Très clairement, il dit, voilà ce que c'est le cœur de l'islam. Et je termine avec cet islam plus radical, révolutionnaire, c'est-à-dire Al-Qaïda. Ils ont des textes, noir sur blanc, ils disent comment s'y prendre. L'État islamique a des brochures. D'abord, ça s'appelait Dabiq. Vous trouvez ça sur Internet, hein? Tout ça, c'est sur Internet, ces brochures. Dabiq brisait la croix. La croix, c'est la pire des choses pour les musulmans. Dire Jésus est mort sur la croix et ressuscité, comme on l'a chanté, c'est la pire des choses. Donc, il faut briser la croix. Donc, on est minoritaire, on l'accepte. Mais quand on sera majoritaire, il faut briser les croix. Et puis, vous avez, ils ont changé leur nom, l'État islamique, de leur revue Rumia. Pourquoi Rumia? Vous l'avez compris maintenant. Rumia, c'est Rome. Voilà. Rome. Donc, ce n'est pas nous qui inventons. C'est eux qui disent, on va prendre Rome, et puis Allah a lancé la terreur dans leur cœur. Voilà. Dans les médias, on va dire, c'est tous des extrémistes, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est faux. C'est faux. Alors, exhortation, je termine avec ça. Notre responsabilité, c'est de vivre l'évangile et le faire rayonner autour de nous. Ça, c'est notre responsabilité de chrétien. Mais sans lâcheté. C'est-à-dire qu'on voit partout autour de nous, dans les écoles, les musulmans disent « Ah, faut pas fêter Noël, ça nous choque, ça offense notre foi. » Et vous avez des enseignantes qui disent « On ne va pas vous choquer, alors on va plus fêter Noël. » Sans voir que c'est peut-être eux qui sont en train de nous agresser. On cède. J'étais encore récemment avec une amie juive qui était très active avec moi à la maison de l'Arzillier et qui était tout à fait lucide sur tout ça. Elle m'a dit, mais j'ai été choqué. Il y avait une rencontre à la maison de l'Arzillier et puis il y avait un apéritif. Et puis, pour ne pas choquer les musulmans, on n'a pas mis le vin sur les tables, on a mis le vin ailleurs. Et cette femme juive m'a dit, mais ce n'est pas possible. Dans notre culture, quand on fait une réception, il y a du vin. Alors qu'on ne mette pas du vin sur toutes les tables, bien évidemment, qu'il y ait une table pour les musulmans, il n'y a pas de vin. Mais de dire qu'on ne va pas mettre de vin du tout ou le cacher, pas pour faire plaisir aux musulmans, il dit, mais c'est stupide. Et le pasteur lui a répondu, c'était pas moi, le pasteur lui a dit, ah non, mais nous, on ne met pas de vin, c'est notre manière chrétienne de répondre à l'islam. C'est pas chrétien, c'est crétin. Ça veut dire qu'on cède. On cède. Nos hommes politiques sont en train de céder, nos églises sont en train de céder, et les premiers qui vont me tomber dessus avec mon livre, c'est les responsables des églises réformées et catholiques, parce qu'ils veulent se montrer ouverts. Je dis, on cède. Prier pour les musulmans, les aimer, leur témoigner de l'évangile. C'était douloureux ce que je vous ai montré. Je sais. C'était douloureux, c'est compliqué, mais on ne doit pas entrer dans la peur. Profondément, non. Seigneur, règne. Je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui vont se lever, qui vont prendre courage, qui vont vivre l'évangile. Nous avons à prier pour les musulmans. Donc s'il vous plaît, quand vous rencontrez des gens autour de vous, vos voisins, n'imaginez pas qu'ils sont tous avec Al-Qaïda ou les frères musulmans, etc. Mais il faut être lucide. La plupart des musulmans pacifiques ne connaissent même pas tout ça, ce que je viens de vous dire. Vivre la liberté des captifs. Marc Durie est un prêtre anglican et il a écrit un très beau livre où il montre qu'en fait, pour résister à l'islam, c'est d'abord un combat spirituel. Parce que l'islam vient avec une double volonté d'alliance. L'alliance, la shahada, la confession de foi musulmane, où les musulmans doivent se soumettre à ce Allah. Mais il y a une alliance avec les non-musulmans qui doivent se soumettre à accepter d'être des citoyens de seconde zone. Et il dit, vous devez résister à ça. Le Christ nous appelle à être des hommes et des femmes debout, libres, mais c'est spirituel que ça joue. Étudier les stratégies de conquête élaborées par des imams, des états et divers groupes musulmans, recevoir la sagesse pour répondre avec lucidité. C'est du boulot, je suis désolé. Et vous allez avoir du travail, il y a des lectures à faire. Vous devez étudier ça, et pas juste dire, voilà, ben maintenant, la prochaine fois, on va parler je ne sais pas, toutes sortes de... tout le monde ne doit pas le faire dans l'église. Moi, je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait. J'ai écrit ce livre, j'alerte, mais j'aimerais que des hommes et des femmes se lèvent dans tous les milieux, politiques, militaires, économiques, médiatiques, et prennent la relève de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Prier pour nos politiciens, nos responsables militaires et les décideurs, les informer pour qu'ils soient conscients des enjeux et prennent les bonnes et fermes décisions qui favorisent une paix dans la durée. J'ai envoyé mon livre à Béatrice Métro hier, à un autre conseiller d'État, je vais essayer de continuer de le faire, mais moi je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas. Donc, prions, aimons, engageons-nous avec lucidité et soyons confiants. Le Seigneur agit d'une manière, comme je crois que ça s'est rarement fait dans les communautés musulmanes depuis des décennies, il n'y a jamais eu autant de musulmans qui sont devenus chrétiens. Jamais autant. Il y a un vrai réveil qui est en train de se passer. Il y a des expériences de songe, le Saint-Esprit touche les cœurs, il se passe des choses extraordinaires. Faisons confiance, restons lucides et restons dans la prière et confiants dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.